Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, salutrices et serviteurs de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président Jokowi considère les agriculteurs de tabac avant la ratification de la convention cadre pour la lutte anti-tabac. L'IPI encourage les étudiants indonésiens d'aimer la recherche dans le domaine maritime. L'Indonésie a excellé dans le domaine de la recherche en génétique des populations. L'Indonésie est prête à être le centre mondial de la mode musulmane. L'Indonésie face à une deuxième vague de terrorisme. L'entreprise de la technologie d'extincteur d'incendie du Japon prête à investir 600 milliards de rupiah en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le chef du bureau de la coopération de droit et de relations publiques de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, Nur Tri Aris, en marge de l'événement Revue des progrès de la proportion guidée du 48e concours scientifique DIGEN, ou LKIR, 2016, dans le bâtiment de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, à Jakarta, a déclaré mardi que LIPI voulait encourager les étudiants indonésiens à être intéressés à la recherche dans le domaine marin, surtout ceux qui vivent dans la région côtière. Selon Nur Tri Aris, leur intérêt dans la recherche devrait commencer plus tôt. Nous voulons encourager les étudiants ou l'initiative de travail des enfants qui était devenue la recherche des étudiants vivant près de la côte. Ils ont l'intérêt marin. À l'université, il y a beaucoup de programmes d'études dans le domaine marin. Plus tard, ils auraient l'intérêt marin. Font des recherches dans le domaine maritime, de sorte que dans l'avenir, ils seront plus prêts pour être quel que ce soit. Nur Tri Aris a également déclaré que LIPI prêterait attention toujours les progrès de la recherche provenant des adolescents et leur donnerait des conseils pour travailler dans une compétition scientifique. Il est sûr que les jeunes chercheurs peuvent développer leurs connaissances pour devenir un chercheur fiable, de sorte qu'ils seront en mesure d'être une force motrice du développement de la nation. Le président Joko Widodo considérera et la survie des agriculteurs et des travailleurs de tabac avant de ratifier et de signer la convention cadre pour la lutte anti-tabac. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo dans une réunion à huis clos sur CCLAT au bureau présidentiel mardi. Il a dit que l'Indonésie n'était pas le seul pays d'Asie qui n'a pas signé ou pas encore signé la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Sur la base des données de l'OMS, a déclaré le président, jusqu'en juillet 2013, 180 pays ont ratifié et adhéré à la convention cadre pour la lutte anti-tabac qui représente 90% de la population mondiale. Le président Joko Widodo a confirmé la solution qui est prise doit être vraiment exhaustive et considérer tous les aspects. En effet, la décision prise par le gouvernement liée à cette question peut apporter des avantages à toutes les parties. Au XXIe siècle, la science et l'innovation étant la clé de la création d'un changement social, le développement économique durable est le conducteur de progrès mondial. Le directeur de l'Institut Ekman, professeur Amin Subandrio, a dit que la science pouvait aider un certain nombre de défis en Indonésie et de créer le développement industriel dans le domaine de la santé, l'agriculture, la pêche et l'énergie. Il a dit lundi à Jakarta que l'Indonésie a beaucoup de scientifiques de niveau international. L'Indonésie est excellée dans le domaine de la recherche sur la génétique des populations.
La génétique à population, misalnya Indonesia ini termasuk leading. Kita bisa mempelajari baik dari manusianya, dari penyakitnya.
Ceci est notre avantage. Nous étudions la génétique des populations. L'Indonésie est inclus le leader. Nous pouvons apprendre la maladie et les hommes parce que l'Indonésie est le plus grand laboratoire naturel. De sorte qu'il y a toutes sortes de gens et de maladies. Ceci, nous utilisons comme l'excès. Selon Amin Subandrio, le plus nécessaire dans le monde de la science actuellement en Indonésie est une collaboration entre les chercheurs, les universitaires et intervenants. L'Indonésie a mené diverses études qui sont très importantes dans le domaine de la science, mais la recherche encore se propage et il n'y a pas encore de coordination entre les différents parties. Selon lui, la coordination est très importante pour soutenir la création d'idées qui peuvent influencer l'innovation et la compétitivité. Depuis 2014 jusqu'à présent, l'Institut Ekman recueille la carte génétique du peuple indonésien. Après les modèles génétiques de la société sont connus, on peut déterminer la vulnérabilité et la résilience de la société contre certaines maladies. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère indonésien de l'Industrie et les activités de la mode musulmane dans le pays sont optimistes que l'Indonésie pourrait devenir le centre mondial de la mode hijab en 2020. Cela a été déclaré par le directeur général des petites et moyennes industries du ministère de l'Industrie, Aisaida mardi. Pour y arriver, l'industrie de la mode musulmane en Indonésie explore l'innovation pour créer les tendances de la mode musulmane qui suit le développement de l'époque. Les universitaires, les hommes d'affaires, le gouvernement, le public et les médias devraient jouer leur rôle au maximum. Le ministre indonésien de l'industrie cherche le centre de la mode musulmane qui peut montrer l'identité de la mode musulmane indonésienne. Selon AIS, l'établissement de l'Institut de la mode islamique à Bandung serait être capable également de soutenir objectifs nationaux et l'industrie de la mode musulmane pour accroître la compétence des ressources humaines. Elle espère que toutes les parties sont en mesure de maximiser leur rôle respectif, si bien que l'Indonésie puisse vraiment être un centre de la mode musulmane. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, M. Tito Karnavian, a déclaré mardi à Jakarta que l'Indonésie actuellement face à la nouvelle menace du terrorisme après l'établissement du réseau Al-Qaïda, ou ce qui est maintenant appelé deuxième vague, et la menace du terrorisme et le radicalisme en Indonésie n'est pas encore achevée. Maintenant, il y a la menace de ISIS, qui est un réseau international plus grand. La menace de la première vague de 1999 est vers le bas en 2009, lorsque Densus 88 prit en embuscade avec succès Dr. Azari à Malang Java Est. La condition de sécurité indonésienne après l'embuscade améliorée de 2009 jusqu'à 2013, il n'y avait pas de mouvement ou d'une activité terroriste. mais la déclaration de l'État islamique d'Irak, Syrie ou ISIS dans le Moyen-Orient a conduit une nouvelle vague étant plus grande parce qu'elle implique beaucoup d'étrangers qui sont joints au groupe. Dans le cadre des efforts visant à prévenir le radicalisme et le terrorisme en Indonésie, BNPT invite tous les éléments de la société à jouer un rôle actif dans ces mesures positives. Le Conseil de coordination des investissements a déclaré que l'entreprise de la technologie d'extincteur d'incendie des forêts du Japon va investir en Indonésie avec une valeur de 600 milliards de rupiah. Le chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, M. Franky Sibarani, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi cet investisseur potentiel a l'intention de construire un système et des outils de la gestion des incendies des forêts dans ce pays. Selon Franky Sibarani, cette entreprise a déjà un partenaire local qui aidera à réaliser l'investissement en Indonésie. Actuellement, cette entreprise est en train d'étudier deux endroits pour être utilisés comme la zone industrielle, telle que la zone industrielle Seimangke au nord de Sumatra et la zone industrielle Tanjung Api-Api à Sumatra du Sud. Le responsable de la promotion des investissements du bureau de représentation de BKPM à Tokyo, M. Saribua Siahaan, a déclaré que l'investissement dans ce secteur était très intéressant parce que jusqu'à présent, l'investissement en provenance du Japon était dominé le secteur de l'automobile et de ses éléments d'appui. Il est prêt à aider l'entreprise à réaliser son investissement dans ce pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Attentat à Orlando ». Le monde ne peut pas oublier l'attaque armée dans les derniers mois au Bruxelles, Paris, Ankara et Jakarta qui a fait des décès. Lundi 13 juin, nous avons été choqués par l'attaque de tir effectuée par un homme contre une discothèque de certains groupes à Orlando, l'État de Floride aux États-Unis. Pas moins de 50 personnes ont été tuées en une seule attaque. L'auteur de la fusillade a été identifié comme Omar Mateen. ISIS revendique la tuerie d'Orlando. Obama appelle les Américains à maintenir l'unité. La réaction des deux personnes qui vont se battre à l'élection présidentielle aux États-Unis est différente. Comme pour justifier sa théorie de l'islam, le candidat Donald Trump estime qu'il est important de contrôler sévèrement les communautés et les lieux de culte musulmans. Hillary Clinton a demandé que les Américains de ne pas blâmer les uns les autres et ne pas faire l'attaque pour détester d'une religion. Mais Hillary choisit encore des mesures fermes pour empêcher une action similaire et plus de contrôler sur le cyberespace. Les attaques brutales provoquent une réaction qui a fustigé de divers partis. La reine et le premier ministre britannique, le président français, le premier ministre de la Belgique, le président de l'Afghanistan et le président de la Russie ont publié une déclaration critiquant l'attaque à Orlando et pour exprimer sa sympathie aux victimes. Avec tant de victimes, ces actions entrent dans la catégorie de fusillades de masse. Aux États-Unis, entre 1966 jusqu'en 2012, il y avait 90 fusillades de masse. Un professeur des sciences criminelles, Adam Langford, a déclaré que l'accident aux États-Unis pourrait se produire dans une foule, comme les boîtes de nuit, les écoles, les lieux de travail et les théâtres. Alors que dans d'autres pays, se produisent généralement près des installations militaires. Selon Langford, les États-Unis ciblent fréquemment d'attaques sanglantes, surtout parce que les victimes ont des troubles psychiatriques, bien que le fait, il n'est pas trop concerné. D'autres chercheurs ont suggéré l'existence d'un phénomène contagieux. Le plus grave est la possession des armes à feu aux États-Unis ne sont pas difficiles que d'autres pays. Actuellement, plusieurs armes à feu qui sont détenues par des personnes aux États-Unis que dans d'autres pays, avec la possibilité américaine, possèdent au moins une pièce d'armes à feu. Enfin, nous n'espérons pas que cela se produise à nouveau. Il doit être en leçon pour les États-Unis de ne pas donner facilement l'autorisation d'utiliser des armes à feu. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cinquième antenne pour la boucle suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec une équipe indonésienne de Thomas Cup a remporté le champion pour la première fois. La première victoire d'équipe Thomas Cup a eu lieu le 15 juin 1958 à Singapour. La première équipe de Thomas Cup se compose de Ferry Sonneville, Tan Yu Hock, Ed Yusuf, Tan King Guan et Nyo Kimbi. Cet événement a prouvé que le badminton indonésien pouvait gagner les réalisations dans l'arène internationale. Depuis ce moment, le badminton de l'Indonésie progresse rapidement et est toujours un champion dans divers championnats internationaux tels que All England, Uber Cup, etc. Notre information est sur l'élection démocratique en Espagne. Après plus de 40 ans de dictateur et 2 ans à peine après la mort du général Franco, l'Espagne connaît les premières élections parlementaires libres. L'UCD, ou Union du Centre Démocratique, d'Adolphe Suarez et le PSOE, ou Parti Socialiste Ouvrière de Felipe González, avec 34 et 29% de voix, sortent vainqueurs au détriment des partis plus radicaux tels que l'Alliance Populaire à droite ou le PCE, Parti Communiste, qui vient d'être légalisé. La transition démocratique espagnole culminera avec l'adoption d'une nouvelle constitution en décembre 1978. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la journée de la dengue de l'ASEAN. La première commémoration de la journée mondiale de la dengue de l'ASEAN a eu lieu au Musée national Jakarta le 15 juin 2011. La dengue est l'affaire de tout est le slogan qui a été lancé à cette époque. La déclaration de Jakarta contre la dengue a été accordée par les 10 pays de l'ASEAN qui étaient présents. L'essence de l'accord est la dengue est incluse dans l'une des maladies contagieuses prioritaires. Ce document est une étape historique parce que l'année suivante, la journée de la dengue de l'ASEAN a tenu au Myanmar qui a publié « Myanmar appel à l'action » dont le contenu soutient la déclaration de Jakarta et invite toutes les parties à continuer à lutter contre la dengue. Serge Tard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre la réintroduction d'animaux dans le cadre de la Semaine internationale de l'environnement. Dans le cadre de la Semaine internationale de l'environnement et des forêts et la 20e Semaine indonésienne de l'environnement et des forêts 2016, Taman Safari Indonesia et le ministère de l'environnement et des forêts, le samedi 11 juin, ont libéré 40 étourneaux à œil noir dans la zone de girafes, district Cisarua, Bogor, l'ouest de Java. Cette activité vise à reconstituer et à augmenter la population des étourneaux à ailes noires à la nature, qui est un oiseau endémique en Indonésie sur l'île de Java, Bali et la partie de Nusa Tenggara Ouest. Cette activité est réalisée en collaboration avec l'Organisation environnementale de l'Allemagne, le Zoo de Kulon d'Allemagne, la Fondation de la conservation naturelle des animaux indonésiens, l'Association indonésienne des oiseaux sauvages et les résidents locaux. La ministre indonésienne de l'environnement et des forêts, Siti Nurbaya, qui a assisté à cet événement, a dit que sa partie a accueilli ces activités qui avaient été effectuées par le ministère de l'environnement et des forêts de l'année dernière en libérant 22 étourneaux à ailes noires en Papouasie. Parce que les étourneaux à ailes noires sont inclus dans les animaux protégés, conformément au règlement gouvernemental numéro 7 de 1999 concernant la préservation des plantes et des animaux et la loi numéro 5 1994. Dans ses activités, la ministre Siti Nurbaya a également transmis plusieurs animaux tels que les orang-outans, des perroquets et un tigre de Sumatra nommé Giring à l'organisme de conservation pour les soins. La réintroduction de centaines d'oiseaux endémiques a également été menée par l'Agence de l'environnement de Sorong, Papouasie de l'Ouest, le dimanche dernier. Pendant ce temps, dans le village de Luang, le district Nagawutung, en province de Nusa Tenggara de l'Est, la ministre de la Mer et de la Pêche, Susi Pujastuti, le samedi dernier, a libéré 200 bébés de tortues marines. La ministre Siti Nurbaya a fermé la 20e semaine indonésienne de l'environnement et des forêts 2016 à Jakarta Convention Center le dimanche 12 juin. Avec le thème « Sauver les plantes et les animaux sauvages pour la vie », cette activité est en ligne avec le thème international fixé par le programme des Nations Unies « Aller sauvage pour la vie ». Sergiteur, c'était la mise au point sur l'environnement de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le chef du bureau de la coopération de droit et des relations publiques de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, Nur Tri Aris, en marge de l'événement Revue des progrès de la proportion guidée du 48e concours scientifique DIGEN, ou LKIR, 2016 dans le bâtiment de l'Institut indonésien des sciences LIPI à Jakarta a déclaré mardi que LIPI voulait encourager les étudiants indonésiens à être intéressés à la recherche dans le domaine marin, surtout ceux qui vivent dans la région côtière. Selon Nur Tri Aris, leur intérêt dans la recherche devrait commencer plus tôt.
Kita ingin membangkitkan siswa-siswi atau inisiatif dari karya.
Nous voulons encourager les étudiants ou l'initiative de travail des enfants qui était devenue la recherche des étudiants vivant près de la côte. Ils ont l'intérêt marin. À l'université, il y a beaucoup de programmes d'études dans le domaine marin. Plus tard, ils auraient l'intérêt marin. Font des recherches dans le domaine maritime de sorte que dans l'avenir, ils seront plus prêts pour être quel que ce soit. Nur Tri Aris a également déclaré que LIPI prêterait attention toujours les progrès de la recherche provenant des adolescents et leur donnerait des conseils pour travailler dans une compétition scientifique. Il est sûr que les jeunes chercheurs peuvent développer leurs connaissances pour devenir un chercheur fiable, de sorte qu'ils seront en mesure d'être une force motrice du développement de la nation. Le président Joko Widodo considérera et la survie des agriculteurs et des travailleurs de tabac avant de ratifier et de signer la convention cadre pour la lutte anti-tabac. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo dans une réunion à huis clos sur CCLAT au bureau présidentiel mardi. Il a dit que l'Indonésie n'était pas le seul pays d'Asie qui n'a pas signé ou pas encore signé la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Sur la base des données de l'OMS, a déclaré le président, jusqu'en juillet 2013, 180 pays ont ratifié et adhéré à la Convention cadre pour la lutte anti-tabac qui représente 90% de la population mondiale. Le président Joko Widodo a confirmé la solution qui est prise doit être vraiment exhaustive et considérer tous les aspects. En effet, la décision prise par le gouvernement liée à cette question peut apporter des avantages à toutes les parties. Au XXIe siècle, la science et l'innovation étant la clé de la création d'un changement social, le développement économique durable et les conducteurs de progrès mondial. Le directeur de l'Institut Ekman, professeur Amin Subandrio, a dit que la science pouvait aider un certain nombre de défis en Indonésie et de créer le développement industriel dans le domaine de la santé, l'agriculture, la pêche et l'énergie. Il a dit lundi à Jakarta que l'Indonésie a beaucoup de scientifiques de niveau international. L'Indonésie est excellée dans le domaine de la recherche sur la génétique des populations.
La génétique des populations, misalnya Indonesia ini termasuk lidik. Kita bisa mempelajari baik dari manusianya, dari penyakitnya.
Ceci est notre avantage. Nous étudions la génétique des populations. L'Indonésie est inclus le leader. Nous pouvons apprendre la maladie et les hommes parce que l'Indonésie est le plus grand laboratoire naturel. De sorte qu'il y a toutes sortes de gens et de maladies. Ceci, nous utilisons comme l'excès. Selon Amin Subandrio, le plus nécessaire dans le monde de la science actuellement en Indonésie est une collaboration entre les chercheurs, les universitaires et intervenants. L'Indonésie a mené diverses études qui sont très importantes dans le domaine de la science, mais la recherche encore se propage et il n'y a pas encore de coordination entre les différents parties. Selon lui, la coordination est très importante pour soutenir la création d'idées qui peuvent influencer l'innovation et la compétitivité. Depuis 2014 jusqu'à présent, l'Institut Ekman recueille la carte génétique du peuple indonésien. Après les modèles génétiques de la société sont connus, on peut déterminer la vulnérabilité et la résilience de la société contre certaines maladies. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère indonésien de l'Industrie et les activités de la mode musulman dans le pays sont optimistes que l'Indonésie pourrait devenir le centre mondial de la mode hijab en 2020. Cela a été déclaré par le directeur général des petites et moyennes industries du ministère de l'Industrie, Aïsaïda, mardi. Pour y arriver, l'industrie de la mode musulmane en Indonésie explore l'innovation pour créer les tendances de la mode musulmane qui suit le développement de l'époque. Les universitaires, les hommes d'affaires, le gouvernement, le public et les médias devraient jouer leur rôle au maximum. Le ministre indonésien de l'industrie cherche le centre de la mode musulmane qui peut montrer l'identité de la mode musulmane indonésienne. Selon AIS, l'établissement de l'Institut de la mode islamique à Bandung serait être capable également de soutenir objectifs nationaux et l'industrie de la mode musulmane pour accroître la compétence des ressources humaines. Elle espère que toutes les parties sont en mesure de maximiser leurs rôles respectifs, si bien que l'Indonésie puisse vraiment être un centre de la mode musulmane. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, M. Tito Karnavian, a déclaré mardi à Jakarta que l'Indonésie actuellement face à la nouvelle menace du terrorisme après l'établissement du réseau Al-Qaïda, ou ce qui est maintenant appelé deuxième vague, et la menace du terrorisme et le radicalisme en Indonésie n'est pas encore achevée. Maintenant, il y a la menace de ISIS, qui est un réseau international plus grand. La menace de la première vague, de 1999, est vers le bas en 2009, lorsque Densus 88 prise en embuscade avec succès Dr. Azari à Malang Java Est. La condition de sécurité indonésienne après l'embuscade a amélioré, de 2009 jusqu'à 2013, il n'y avait pas de mouvement ou d'une activité terroriste. Mais la déclaration de l'État islamique d'Irak, Syrie ou ISIS dans le Moyen-Orient a conduit une nouvelle vague étant plus grande parce qu'elle implique beaucoup d'étrangers qui sont joints au groupe. Dans le cadre des efforts visant à prévenir le radicalisme et le terrorisme en Indonésie, BNPT invite tous les éléments de la société à jouer un rôle actif dans ces mesures positives. Le Conseil de coordination des investissements a déclaré que l'entreprise de la technologie d'extincteur d'incendie des forêts du Japon va investir en Indonésie avec une valeur de 600 milliards de rupiah. Le chef du Conseil de coordination des investissements au BKPM, M. Franky Sibarani, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi cet investisseur potentiel a l'intention de construire un système et des outils de la gestion des incendies des forêts dans ce pays. Selon Franky Sibarani, cette entreprise a déjà un partenaire local qui aidera à réaliser l'investissement en Indonésie. Actuellement, cette entreprise est en train d'étudier deux endroits pour être utilisés comme la zone industrielle, telle que la zone industrielle Seimanke au nord de Sumatra et la zone industrielle Tanjung Api-Api à Sumatra du Sud. Le responsable de la promotion des investissements du bureau de représentation de BKPM à Tokyo, M. Saribua Siahaan, a déclaré que l'investissement dans ce secteur était très intéressant parce que jusqu'à présent, l'investissement en provenance du Japon était dominé le secteur de l'automobile et de ses éléments d'appui. Il est prêt à aider l'entreprise à réaliser son investissement dans ce pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir Serge Thor, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation typique de Betawi ou de Jakarta, légumes babanci. Serge Thor, l'Indonésie est un pays qui est bien connu avec des épices. Les Indonésiens utilisent des épices comme ingrédients. Maintenant, ce n'est pas étonnant, la nourriture typique indonésienne est riche de goût. L'ando est le légume de babanci, un aliment typique de Betawi. Cette nourriture utilise des épices. Il existe deux types de légumes babanci. Le premier n'utilise pas de légumes du tout. Quand il est servi, il n'y a pas de légumes, mais il est comme le curry. À cause de cela, il est nommé le légume babanci. Le deuxième type vient de la population locale. Les gens disent que dans le passé, le légume babanci était fait par le peuple chinois. Le nom de babanci vient de mots de baba et chichi. En visibilité, le légume babanci est comme soto et le curry. Soto est une soupe traditionnelle indonésienne. Sa sauce est jaune et domine parmi la couleur blanche et verte. Le légume babanci contient des petits ou pakia speciosa, la viande de vache, serundeng ou la noix de coco râpée et grillée, et la chair de jeune noix de coco, etc. L'utilisation de la noix de coco en babanci est très dominante. À partir de sa sauce, il utilise l'eau de genou coco et le lait de coco. En ce qui concerne le contenu des légumes, il y avait ce rondin ou la noix de coco râpée grillée et la chair de jeune noix de coco. En d'autres termes, toutes les parties de noix de coco sont utilisées dans la fabrication de légumes babanchi. Le légume babanchi est habituellement servi par les gens de Betawi ou de Jakarta au mois de Ramadan, l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Le goût qui est riche en épices rend la nourriture comme si entrait tous les épices dedans. Le légume est fabriqué à partir de 21 ingrédients et 50% de ces ingrédients sont difficiles à trouver. Donc, cette nourriture est menacée d'être éteinte. À Jakarta, il y a moins de gens qui vendent cette nourriture. Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous voulez la goûter, s'il vous plaît, venez à Kota Tua, un quartier où il y a un restaurant qui fournit des légumes babanchi. Donc, si vous êtes à Jakarta, s'il vous plaît, ne pas oublier d'arrêter à Kota Tua pour goûter les légumes babanchi. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Légumes babanchi, l'alimentation typique de Betawi ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Notre sujet pour ce soir est menjenguk teman di rumah sakit. Je répète, menjenguk teman di rumah sakit. En français, visiter une amie à l'hôpital. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions de langue indonésienne reliant au sujet aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Apa kabar? Apa kabar? En français, comment ça va? Ou bien, comment allez-vous? Ou bien, comment vas-tu? Saya baik. Dan kamu? Saya baik. Dan kamu? En français, je vais bien. Et toi? Ou bien, ça va. Et toi? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. En français, à l'hôpital. Melahirkan. Melahirkan. En français, donner naissance. Bayi laki-laki. Bayi laki-laki. En français, un bébé. Anak pertama. Anak pertama. En français, le premier enfant. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. En français, à bientôt. Ensuite, je vais donner l'exemple de conversation ayant pour titre menjenguk teman di rumah sakit. Je répète, menjenguk teman di rumah sakit. En français, visiter un ami à l'hôpital. Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Cette conversation est entre Nina A et Lucy B. A. Hai Nina, apa kabar? A. Hai Nina, apa kabar? En français, salut Nina, comment vas-tu? B. Saya baik, dan kamu? B. Saya baik, dan kamu? En français, je vais bien, et toi? A. Saya juga baik. Kamu mau pergi kemana? Saya juga baik. Kamu mau pergi kemana? En français, moi aussi, tu vas où? B. Ke rumah sakit. B. Ke rumah sakit. En français, à l'hôpital. B. Menjenguk teman yang melahirkan. Menjenguk teman yang melahirkan. En français, pour visiter une amie qui a donné naissance. A. Ia melahirkan bayi laki-laki. A. Ia melahirkan bayi laki-laki. En français, elle a donné naissance à un bébé. B. Anak pertama. B. Anak pertama. En français, le premier enfant. A. Baiklah kalau begitu, saya pergi dulu. A. Baiklah kalau begitu, saya pergi dulu. En français, eh bien, je vais d'abord. B. Sampai ketemu nanti. B. Sampai ketemu nanti. En français, à bientôt. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur, Ramona Purba. Voici sa première chanson intitulée Terlena. Bonne écoute.
Sering berpikir
Serviteur, c'était la chanson de Ramona Purba intitulée Terlena. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @voiindonesia. La condition physique imparfaite ne devient pas une raison ou un obstacle pour Ramona, même devient l'encouragement de l'esprit pour atteindre son objectif de devenir un chanteur célèbre. Il est prouvé, Ramona est surnommée Stevie Wonder de l'Indonésie. En effet, avec l'état de la voix imparfaite, Ramona Purba, provenant de Medan, Sumatra du Nord, peut prouver qu'il est capable d'aligner avec d'autres chanteurs de pop dans le pays à travers ses meilleures œuvres qui peuvent soulever sa popularité en tant que chanteur. À partir du chanteur de la bande comme première étape de sa participation au monde de chant, Ramona a montré la beauté de sa voix. Ensuite, il essaie de chanter en solo et le premier album de Ramona était succès. Bon, serviteur, écoutons donc maintenant la chanson de Ramona intitulée Jalan Sore Sore. Bonne écoute. Sixième longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur pop de l'Indonésie, Ramona Purba. Le talent de Ramona était déjà visible de la petite. Dans le domaine de la musique, outre sa bonne voix, il peut jouer de la musique et des instruments de musique comme la guitare et le piano. Grâce à sa fermeté et conviction, Ramona Purba est un succès. Son succès est aussi une motivation pour les aveugles pour travailler. Ramona a aussi fréquemment collaboré avec d'autres musiciens bien connus dans le pays et même chaque album a été soutenu par ces musiciens à perfectionner. Avec le nombre de nouveaux arrivants dans le monde de la musique pop d'Indonésie, Ramona n'est pas bien connue. Mais ses chansons étaient toujours dans le cœur des amateurs de chansons pop dans le pays. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée Nalriku. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.